Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. Il est 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Arthur Ponchet.
Bonjour Anne et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce midi, il dénonce un comportement déloyal, illégal et parle de la France comme d'un état hostile. Le gouvernement du Niger annonce nationaliser la Somaïr, société d'exploitation d'uranium, jusque-là détenue en majorité par le français Orano. Elle est l'une des rares voix critiques du président Kagame, l'opposante rwandaise Victoire Ingabire, arrêtée hier. Elle est accusée d'avoir voulu déstabiliser le président. Dans ce journal aussi, une nouvelle réunion pour mettre en œuvre l'accord de paix entre les autorités centrafricaines et les rebelles des 3R et de l'UPC. Comment débloquer le processus politique en Libye? Une troisième conférence sous l'égide de l'ONU se tient en ce moment. Et puis c'est un rendez-vous populaire, mythique et enivrant. Reportage au festival Gnawa au Maroc qui a ouvert ses portières. C'est un bras de fer qui dure depuis 2 ans. D'un côté, une entreprise française, Orano, de l'autre, les autorités du Niger. Elles partageaient jusqu'ici une société, la Somaïr, société des mines de l'Aïr, détenue à 63% par le groupe minier et à 36% par Niamey. Mais hier, coup de tonnerre, après des mois de tension, le gouvernement nigérien a annoncé qu'il nationalisait l'entreprise. Bonjour Charlotte Cosset.
Bonjour Arthur.
Lors du Conseil des ministres, les autorités nigériennes ont dressé la liste de leurs griefs contre la société française, et elle est longue.
Et elle est longue, Arthur. Niamey reproche à Orano de ne pas avoir respecté la règle de partage prévue dans l'entente. La société française aurait ainsi exporté plus que sa part. Autre point de désaccord, l'arrêt des travaux d'exploitation au niveau de la Somaïr depuis le 26 juillet 2023, le rapatriement de ses ressortissants français sans préavis, ou encore la déconnexion du système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe. Autre grief, la tentative d'Orano de revendre ses parts. Un sujet évoqué par le Financial Times mi-mai. Les parties sont libres de soumettre des offres si elles le souhaitent, répondait alors Orano à l'agence France Presse. Aucune mention n'est faite du stock de plus de 1000 tonnes d'uranium conservé sur le site de la Somaïr, un stock estimé à 250 millions d'euros par Orano. Contactée, l'entreprise française n'a pas souhaité faire de commentaires. Dans son dernier communiqué, au mois de mai, Orano s'inquiétait de l'arrestation de son directeur, toujours détenu, et déplorait l'incapacité d'accéder aux locaux de ses filiales à Niamey. En décembre, l'entreprise française avait acté la perte de contrôle de ses filiales au Niger. Des procédures internationales d'arbitrage ont été engagées, notamment devant le CIRDI, l'instance de la Banque mondiale.
Charlotte Cosset, le Niger, c'est aussi le dossier de Moussa Tchangari devant la cour d'appel de Niamey. Ce matin, le collectif d'avocats qui représente cette figure de la société civile a plaidé la nullité de la procédure. Et selon l'un d'entre eux, le procureur général est allé dans le même sens. Le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen est inculpé, entre autres, pour atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État. Délibéré attendu le 4 juillet. En bref, une nouvelle attaque contre un village dans le sud du Tchad hier soir. Des hommes armés ont ciblé le village d'Oregom. C'est à quelques kilomètres de Mandakao, là même où une quarantaine de personnes avaient été tué mi-mai suite à un conflit intercommunautaire. Il pourrait s'agir d'un acte de vengeance. Selon la télévision MRTV liée à la présidence, 17 personnes ont été tuées. Plusieurs représentants de l'État se sont rendus sur place ce matin. 4 suspects auraient été arrêtés. La situation sécuritaire au Tchad était au cœur hier d'une réunion à la présidence. Le chef de l'État a menacé les responsables des départements de la sécurité, de l'administration du territoire et de la justice de les remplacer s'ils ne remplissaient pas leur mission. Déjà condamnée en 2012, la voilà à nouveau dans le viseur de la justice de son pays. Au Rwanda, Victoire Ingabire a été arrêtée hier, principale opposante à Paul Kagame. Elle est accusée d'avoir joué un rôle dans une affaire de déstabilisation de l'État, affaire qui remonte à 2021. Paul Lorgerie, elle s'est exprimée hier devant le tribunal, c'était juste avant son arrestation, et elle nie en bloc toute implication dans ce complot.
Oui, et selon un communiqué du bureau d'enquête du Rwanda, Victoire Ingabire risque d'être inculpée pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. L'un de ses proches raconte que la perquisition de son domicile ainsi que son arrestation se sont déroulées en fin de journée, hier, peu de temps après son audition devant le tribunal. L'opposante de 56 ans est citée dans l'affaire Sylvain Sibomana, ancien secrétaire général du précédent parti de Victoire Ingabire. Avec 8 autres personnes arrêtées en 2020, 2021, il est accusé d'avoir organisé des réunions. Leur objectif présumé, le renversement du pouvoir. En cause notamment la lecture du livre d'un certain écrivain serbe intitulé « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Victoire Ingabire est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'organisation de ces réunions avec ses sympathisants. Ce qu'elle nie en bloc... Et hors de l'audience, elle a notamment avancé que lors des activités de son parti qui n'a jamais pu être enregistrée, ses activités sont au point mort. Une arrestation qui, pour l'un de ses avocats internationaux, intervient à quelques mois de la fin de sa peine actuelle. Arrêtée en 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été libérée au bout de 8 ans après une grâce de Paul Kagame.
Paul Lorgery, cette arrestation intervient alors que le Rwanda et la RDC se rapprochent encore un peu plus d'un accord de paix. Un accord préliminaire a été paraphé par les experts des deux pays, c'était mercredi à Washington. Depuis, on n'en sait plus sur ce texte, qui doit encore être signé au niveau ministériel le 27 juin. Passion Ligaudi, qu'est-ce qu'il contient ?
Les Américains insistent sur un point, la cessation des hostilités. C'est la première disposition du texte qui sera présentée au ministre des Affaires étrangères. Autre point majeur, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Ce mécanisme doit être opérationnel dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Sa mission, identifier, localiser et neutraliser les éléments armés des FDLR. Les deux parties doivent coopérer pour vaincre ces groupes armés et leurs affiliés. Le texte évoque aussi la nécessité de conclure les négociations entre le gouvernement congolais et la FCM-23 avec la participation de ces groupes à un dialogue intercongolais. Changement notable, le document publié ne reprend plus certains préalables contenus dans la précédente version. Sur le plan économique, Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou étendre leur coopération. Objectif, sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais et mettre en place des chaînes de valeur transparentes et formalisées en partenariat si nécessaire avec les États-Unis et les investisseurs américains. Enfin, la signature de l'accord ne réunira pas uniquement Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump. Un sommet plus large est prévu avec la participation d'autres chefs d'État africains comme témoin ou garant.
Passion Ligaudi, l'autre accord que l'on continue de suivre, lui, a bel et bien été signé. Il y a deux mois, les autorités centrafricaines et les rebelles des 3R et de l'UPC signaient un texte. Il prévoit la réintégration des deux grandes rébellions à dominante Peul, à l'accord de Khartoum signé en 2019. On en est au stade de la mise en œuvre. Bonjour François Mazet.
Bonjour.
Hier, vous nous expliquez que des réunions se tiennent en ce moment au niveau local entre chefs rebelles, autorités civiles et militaires centrafricaines et les Russes de Wagner. Justement, François, une de ces rencontres particulièrement symboliques a eu lieu hier.
Oui, cela s'est passé dans le centre du pays, à Maloum, à une cinquantaine de kilomètres de Bambari, province de la Waka. Des photos de la rencontre ont circulé. On y voit un des principaux chefs militaires du groupe rebelle UPC, le général Amadou Bungous, et ses hommes posés avec ceux de Wagner, menés par Dimitri Podolski. Dimitri Podolski, c'est une personnalité centrale dans le dispositif russe en Centrafrique, car il a un rôle de conseiller à la sécurité à la présidence de la République, donc directement auprès du président Touadéra. Alors que des tractations ont lieu entre Moscou et Bangui pour faire évoluer le dispositif russe dans le pays, aller vers un remplacement de Wagner par Africa Corps, eh bien cette rencontre montre l'implication directe de Wagner dans les tractations en cours avec les rebelles, rappelant que le groupe avait déjà joué un rôle clé lors de la conclusion de l'accord de Khartoum en 2019. Des réunions de ce type ont lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions de Centrafrique. Elles ont pour but de s'assurer le cessez-le-feu au niveau local, de permettre la libre circulation des rebelles dans l'attente de l'organisation de leur cantonnement et de leur désarmement qui n'ont pas encore commencé. Selon les autorités centrafricaines, Arthur, l'UPC devrait disposer de 8 sites de regroupement et 6 autres pour les hommes des 3R.
François Mazet, un mot du Cameroun et de la réaction du ministre d'État Jacques Famdongo à la lettre des élites de la région sud. Elles appellent les populations de la région d'origine du président Biya à s'engager pour le changement en vue de la présidentielle d'octobre. Le Sud, je cite, n'accepte pas cette tentative de parricide politique. Voilà ce qu'écrit le ministre camerounais de l'enseignement supérieur, lui-même natif de cette région. C'est une réunion technique, mais elle est cruciale pour relancer le processus politique en Libye. Après Berlin 1 et 2, place à Berlin 3, ce cycle de réunions en présence de représentants de la communauté internationale pour tenter de sortir le pays du blocage. Avec nous pour en parler, Ouda Ibrahim. Ouda, la réunion a été maintenue malgré le contexte international. Le comité de suivi doit également se pencher sur la situation sécuritaire à Tripoli, en proie à de nouvelles tensions depuis mai dernier.
Cette troisième conférence sur la Libye se tient au niveau des ambassadeurs et est placée sous l'égide de l'ONU. Les deux précédentes ont eu lieu au niveau de ministres des Affaires étrangères. La Guinéenne Hanna Tété, présente à Berlin depuis hier, a déjà commencé les contacts. Plus tôt dans la semaine, elle a fait le déplacement en Turquie, pays fortement impliqué en Libye. Selon des sources diplomatiques libyennes, la Manul voudrait relancer la conférence de Berlin pour appuyer les résolutions du comité consultatif libyen composé de 20 membres et qui a travaillé sur des propositions en collaboration avec l'ONU. Ce comité prépare l'arrivée d'un nouvel exécutif provisoire qui remplacera les deux gouvernements parallèles actuellement en place dans l'espoir de conduire le pays vers des élections générales.
Et l'envoyé spécial Ouda souhaite que cet exécutif soit issu d'un consensus national et d'un dialogue.
Effectivement, pour l'ONU, cela demeure la seule issue possible pour sortir du blocage actuel. Selon des sources libyennes bien informées, une sorte de conseil consultatif de 60 personnes sera bientôt nommé pour s'atteler à cette mission difficile. Ce conseil comprend les 20 membres du conseil consultatif existant, en y ajoutant des parlementaires, des membres du Haut Conseil d'État, une sorte de chambre haute du Parlement, ainsi que des membres de la société civile. Cette proposition serait donc adoptée à Berlin, puis à l'ONU, qui tiendra deux réunions sur la Libye le 24 juin prochain. Les résolutions de Berlin seront adoptées par le Conseil de sécurité afin de donner à la communauté internationale des moyens de pression sur les parties libyennes comme sur les parties étrangères.
Ouda Ibrahim en direct dans Afrique Midi. Et midi 41 en temps universel. Il a été arrêté le 26 mai dernier et pour la première fois, il a pu voir son avocat au Togo. Le rappeur Amron est toujours interné dans un hôpital psychiatrique. Souvenez-vous, c'est là que cette voix critique des autorités togolaises a été emmenée. Depuis, il est retenu contre son gré, ça c'est ce que dit son avocat, maître Célestin Akbogan, qui a pu le voir pendant une heure. Il appelle à le relâcher et à le renvoyer chez lui.
Nous avons vu Amron qui raisonne, qui parle bien et je dirais même qu'il y a plus lucide que ceux qui ont décidé de l'interner. Et Amron a décrit toute l'histoire relativement à sa mésaventure. Il nous a décrit avec précision les conditions dans lesquelles il a été interpellé ou enlevé, tout le trajet qu'il a parcouru. Et il a donné des précisions sur les dates. Amron a été constant dans cette déclaration. Il a même dénoncé des traitements dégradants qui lui ont été infligés au SCRIC, ce qui voudrait dire que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui n'est pas malade. Il n'est pas libre de partir parce que le médecin a dit mais il sera interné pendant environ un mois. Et donc, comme le médecin a produit un rapport qu'il a transmis au procureur, le procureur a fait une réquisition relative à son internement pour qu'on le libère parce que un malade, c'est lui-même qui se propose d'aller à l'hôpital. Surtout que c'est majeur. Sa place est chez lui. À la maison.
Propos recueillis par Magali Lagrange. Les basketteuses du Sénégal n'iront pas aux États-Unis. Washington leur a refusé le visa. C'est Ousmane Sonko, le premier ministre, qui l'a dit hier. Les 12 joueuses de la sélection féminine et des membres de l'encadrement devaient se rendre dans le pays pour préparer la Coupe d'Afrique de basket. Elles s'entraîneront finalement à Dakar. Un incident qui intervient alors que le Sénégal est menacé d'entrer sur la liste du travel ban de Donald Trump. Cette menace concerne 36 nouveaux pays, dont 25 Africains. Parmi eux, le Nigeria est face à cette possibilité. Le ministre nigérian des Affaires étrangères contre-attaque. Clotilde Hazard, il estime que cela ferait dérailler les négociations pour un accord sur les métaux rares.
Youssouf Tougar a rappelé à Donald Trump les opportunités qu'il pourrait perdre. Nous aimerions conclure des accords avec les États-Unis, mais les restrictions en matière de visa sont des obstacles non tarifaires, a-t-il déclaré, ajoutant « ce serait dommage car nous sommes une terre d'opportunités ». Le sol nigérian est en effet riche en métaux critiques et rares, un groupe de 17 éléments comme le lithium ou le samarium, indispensables dans les secteurs de la défense, des véhicules électriques, de l'énergie et de l'électronique. Il est le cinquième pays producteur de métaux rares au monde, premier du continent africain, avec 13 000 tonnes produites en 2024, soit 80% de plus que l'année d'avant, selon les derniers chiffres du service géologique américain. Pour les États-Unis, l'Afrique représente une alternative intéressante face à la Chine, qui domine et contrôle le marché des métaux rares. Le pays représente environ 90% de la production mondiale. En avril, en réaction à la hausse des tarifs douaniers mise en place par Trump, la Chine a limité les exportations de terres rares vers les les États-Unis qui ne possèdent qu'une seule mine en Californie et s'approvisionner en Chine, ce qui pourrait mener à une pénurie de ces matières premières dans le pays.
La guerre au Soudan est la crise humanitaire la plus grave et la moins visible au monde. Les mots de Filippo Grandi il y a quelques minutes sur notre antenne. Le patron du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés s'exprime alors que ce vendredi marque la journée internationale des réfugiés. Ils sont près de 43 millions dans le monde, dont 8 à 10 millions rien qu'en Afrique, Eva Massi.
C'est en Afrique de l'Est que l'on trouve le plus grand nombre de réfugiés sur le continent. L'Ouganda accueille à lui seul environ 1,7 million de réfugiés, ce qui en fait le premier pays d'accueil en Afrique et le troisième au monde. Le Tchad est devenu en 2024 le deuxième pays d'accueil du continent et héberge plus d'1,2 million réfugiés, juste avant l'Éthiopie, troisième pays d'accueil, qui en héberge un peu plus d'1 million, principalement venant du Soudan du Sud, de la Somalie et de l'Érythrée. Les causes de départ sont multiples et interconnectées, mais les conflits armés et les violences restent la principale cause. Le Soudan du Sud, le Soudan, la République démocratique du Congo et la Somalie comptent parmi les plus grands pays de départ. Mais dans la région du Sahel aussi, l'instabilité a provoqué une hausse des réfugiés, leur nombre ayant triplé entre 2020 et 2024 et atteignant plus de 650 000. Maliens, Burkinabés et Nigériens ont fui principalement en Mauritanie, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une tendance se confirme, 67% des réfugiés restent dans les pays voisins de leur pays d'origine et plus de la moitié sont des enfants, souvent confrontés à la malnutrition, aux violences ou sans accès à l'éducation.
Eva Massi. Du sport, de l'athlétisme et la suite de la Ligue de Diamants. Après Rome, Oslo et Stockholm, c'est Paris qui va accueillir la 8e étape de la compétition. C'est le lieu et le moment qu'a choisi Hugues Fabrice Zangot, bientôt retraité pour revenir à la compétition. Pour sa dernière saison au plus haut niveau, le Burkinabé se montre très ambitieux avec les championnats du monde en ligne de mire. Cédric De Oliveira.
Un barreau d'honneur, c'est gagner Tokyo.
Hugues Fabrice Zangot a toujours été quelqu'un d'ambitieux à la ville comme sur une piste d'athlétisme. Alors à bientôt 32 ans et pour ses derniers frissons de champion, il se voit bien conserver son titre mondial sur triple saut acquis il y a 2 ans à Budapest.
Certains diront que c'est prétentieux de le dire comme ça, mais on est à 3 mois de l'échéance, quoi. Et là, j'ai repris les entraînements il y a à peine 3 semaines. Tokyo, je serai largement prêt, mais déjà dans 1 mois, ça sera déjà tellement différent. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir à ce niveau et on sera prêt pour Tokyo.
Déçu par sa 5e place l'an dernier aux Jeux de Paris, le Burkinabé sait qu'il faudra aller plus loin que son bond à 16,56 m la semaine dernière à Oslo. À Paris, sa 2e maison, comme il aime le rappeler, il entend donc retrouver des sensations. Pourquoi pas dépasser les 17 mètres, plus conformes à ses performances par le passé. La concurrence en tout cas sera là. Entre le Cubain Lázaro Martínez, l'Algérien Yassine Sertriki ou encore le Jamaïcain Jordan Scott, parmi les meilleurs performeurs de la saison en plein air.
Allez, du triple saut, on passe à la danse et à la musique, direction Essaouira et son festival Gnawa, événement mythique, 26e édition de ce rendez-vous singulier où musiciens traditionnels rencontrent des artistes venus des quatre coins du monde. Hier, le Maroc et le Sénégal étaient ainsi réunis sur la grande scène. Guillaume Thibault est notre envoyé spécial et il a bien de la chance. Reportage.
Sourire, embrassade et la sensation de voir de vieux cousins se retrouver. Venus de Casamance, les percussionnistes et les danseurs de la compagnie Bakalama, dirigée par Malan Ndiaye, ravis de la fusion avec les artistes locaux.
C'est des émotions très fortes. Moi, je ne pensais jamais, en quittant le Sénégal, qu'on peut vraiment cette musique du Sud le mettre directement avec cette musique marocaine. J'y pensais pas. C'est très puissant.
Avec le festival Gnawa, c'est le puissant Mahalem, Hamid El Kassri, qui est à l'origine de cette création unique, avec la volonté de retrouver les racines du continent africain.
La musique transmet ce qui est bon. C'est aussi un moyen pour rencontrer d'autres cultures. C'est notre langue commune. Si je n'avais pas ce partage, je n'aurais pas de plaisir dans ma vie.
Un plaisir partagé sur scène avec la chanteuse sénégalaise Kialoum. Comme un père et une fille, ces deux-là s'amusent tout en offrant au public du festival Gnawa, en liant l'arabe et le wolof, une prestation hors du commun, de haute volée.
La musique pour moi, c'est l'amour. Pour moi, l'amour, c'est le don de soi. Être là pour les sans voix et chanter leurs mots. Pour moi, la musique, c'est la vie, tout simplement.
Guillaume Thibault et Essaouira, RFI.
Il est 13h49 à Essaouira. Midi 49 en temps universel, Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi.
Une rencontre pour tenter d'apaiser le conflit entre l'Iran et Israël, ça se passe à Genève. Les ministres français, britanniques et allemands des affaires étrangères discutent avec leur homologue iranien. Emmanuel Macron a fait savoir tout à l'heure que les Européens proposeraient un cadre de négociation global rassemblant le programme nucléaire de Téhéran, les activités balistiques et le financement de groupes terroristes dans la région. Pour l'instant, les bombardements se poursuivent. Israël dit avoir visé des dizaines de cibles la nuit dernière et tué un scientifique iranien. Le président turc, qui critique l'offensive lancée par Israël, prévient lui les Européens que ce conflit pourrait déclencher un afflux migratoire sur le continent. Recep Tayyip Erdogan recevra lui tout à l'heure le Premier ministre arménien. Rencontre extrêmement rare entre les dirigeants des deux pays. Et puis de nouvelles victimes civiles à Gaza, 43 personnes tuées par l'armée israélienne depuis ce matin. Une fois encore, une partie ont été visées alors qu'elles tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire. Aide désormais contrôlée par une fondation très controversée depuis la mise à l'écart des Nations Unies par Israël.
On en parlait il y a quelques minutes, la RDC et le Rwanda se rapprochent encore un peu plus d'un accord de paix. Un accord préliminaire a été paraphé mercredi à Washington. Pour en parler, Thierry Mungala, le ministre de la Communication du Congo-Brazzaville et porte-parole du gouvernement, est l'invité de Christophe Boisbouvier.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Ce mercredi, la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à signer un accord de paix le 27 juin prochain lors d'une réunion ministérielle prévue à Washington. Quelle est votre réaction ?
Nous nous réjouissons de cette avancée qui nous paraît une avancée majeure. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est prôné un arrêt des hostilités, un désarmement des forces qui sont considérées comme rebelles et la possibilité d'aller vers la conclusion d'un accord de paix. Donc nous, les pays voisins, nous nous réjouissons de cet accord et nous espérons que les différentes étapes qui semblent attendues soient franchies sans encombre.
Et après 29 ans de guerre dans les Grands Lacs, vous croyez à une paix définitive ?
Nous espérons que cette fois-ci, avec l'intervention d'une grande puissance comme les États-Unis, que cette fois-ci soit la bonne.
Depuis deux mois, ce sont en effet les États-Unis et le Qatar qui font médiation entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que l'Afrique n'est pas marginalisée dans cette affaire ?
Non, je considère qu'objectivement, quand une maison brûle, tous ceux qui amènent des seaux d'eau pour éteindre l'incendie sont les bienvenus.
Depuis un an, la location de 12 000 hectares de terre congolaise à une société rwandaise suscite beaucoup d'émotions à Brazzaville, mais aussi à Kinshasa, où beaucoup y voient le risque que l'armée rwandaise en profite pour ouvrir un deuxième front contre la RDC. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous venez d'annuler ce contrat foncier avec le Rwanda ?
Non. Alors, il faut que je précise en deux mots la situation. Il y a d'abord des accords d'État à État, qui sont des accords de coopération bilatérale classiques. Ce sont des accords dans des matières essentiellement économiques. Ces accords ne sont pas remis en cause et ils n'ont aucune raison de l'être. Il y a à côté de cela des contrats ponctuels qui ont été conclus pour la relance de la production agricole dans des zones très riches. Ces accords ont été conclus avec des sociétés rwandaises et malheureusement, on a constaté leur caducité parce que les entreprises n'ont pas accompli les diligences qui étaient attendues d'elles. Et donc, naturellement, la condition de caducité a été mise en œuvre depuis le 8 décembre 2024. Et donc, comme vous voyez, rien à voir avec le conflit que nous évoquions tout à l'heure. Il n'y a là absolument aucune connotation militaire. Et puis d'ailleurs, comment voudriez-vous qu'il y ait des connotations militaires à ce type d'accord alors que notre pays est situé à près de 1500 km du théâtre des opérations concernées, c'est-à-dire l'est de la RDC et les confins du Rwanda.
En tout cas, les autorités de Kinshasa étaient inquiètes et elles vous l'avaient fait savoir.
Nous échangeons régulièrement avec les autorités de Kinshasa. Je peux même vous dire que récemment, le ministre de l'Intérieur du Congo a eu l'honneur de rencontrer le président Félix Tshisekedi et je suis certain que nous apportons au quotidien toutes les assurances de notre volonté de faire que ça se passe bien.
La présidentielle au Congo, c'est dans un an.
Le président Sassou Nguesso a le droit de se représenter, mais il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait envisager de laisser la place aux jeunes ?
Bon, moi je poserais la question plutôt dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande stabilité, nous avons un président de la République expérimenté. Je suis convaincu que le président de la République est celui qui va favoriser cette transition générationnelle dans la paix, dans la stabilité et dans la cohérence. Parce que quand on se précipite vers ce qui ressemble à un changement, on s'aperçoit bien vite que les mains inexpertes à qui on confierait trop vite les choses pourraient conduire le pays à l'impasse. Donc je souhaite que le président de la République soit candidat, mais ce n'est pas à l'ordre du jour au moment où nous exprimons, puisque nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle et le président a un mandat à remplir. construire entre-temps.
Mais cette transition générationnelle dont vous parlez, elle pourrait avoir lieu dès l'année prochaine ou pas ?
Non, cette transition générationnelle, c'est lui qui est le transmetteur, qui porte cette transition générationnelle. Je dis qu'il va assurer cette transition en allant vers la capacité de rajeunir les équipes, d'y inclure le maximum de jeunes.
Voilà 9 ans que les opposants Jean-Marie-Michel Mokoko et Andréo Kombi-Salissa sont derrière les barreaux. La justice les a condamnés à 20 ans de prison, mais beaucoup les considèrent comme des prisonniers politiques. Est-ce qu'une grâce présidentielle pourrait avoir lieu avant l'année prochaine, avant la présidentielle ?
Bon, il me semble que dans notre législation, ce sont des éléments qui souvent doivent faire l'objet d'initiatives de la part des condamnés. Donc je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. Je pense que le président de la République est le seul maître de la possibilité de gracier.
Thierry Mungala, merci.
Le ministre de la Communication du Congo-Brazzaville, invité de Christophe Boisbouvier, entretien à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Bientôt 13h en temps universel. Comme hier, on part pour l'Afrique du Sud à la rencontre des rhinocéros. Ils sont menacés sur le continent. Alors, pour les sauver, la collaboration entre les pays est essentielle. Pretoria a signé il y a 10 ans un accord avec le Mozambique pour s'accorder sur la stratégie de conservation du parc Kruger à la frontière entre les deux pays. Cet accord permet aussi de déplacer les animaux et ainsi rééquilibrer l'écosystème. RFI Reportage, Valentin Hugues.
La respiration que vous entendez, c'est celle de Billy, un rhinocéros sud-africain, une femelle d'environ 1 tonne placée dans un box en métal, direction le Mozambique.
Okay.
Normalement, on ne donne pas de nom à nos animaux, mais ils en auront un pour le transport. Si quelque chose se passe mal sur la route, on doit pouvoir les identifier.
Bouyissa Radebe travaille pour SM Vélo KZN Wildlife, l'organisation qui gère les parcs publics de la région. Elle est venue assister à cette opération hors norme.
Le déplacement en lui-même est très éprouvant, mais on sait pourquoi on le fait. C'est pour leur survie. Nous avons besoin d'avoir plein de petits Billy partout dans le monde. Et j'ai hâte d'entendre leurs histoires.
Et c'est tout l'objectif. L'Afrique du Sud, et particulièrement ce parc Rurulwe, c'est le berceau des rhinocéros africains. Anthony Alexander et la fondation Peace Park coordonnent donc des relocalisations d'animaux sauvages.
Peace Parks n'a commencé à soutenir le gouvernement mozambicain qu'il y a 10 ans. On devait d'abord prendre le temps de rétablir les bons systèmes de sécurité là-bas et de s'assurer que l'environnement était adapté pour faire venir les animaux sauvages.
Des transferts qui se multiplient ces dernières années, notamment grâce à des techniques qui évoluent, explique Kesta Vikri de la Fondation Conservation Solutions. Il rentre à peine du Rwanda où il a déplacé 70 rhinos sud-africains en avion.
Nous pouvons maintenant déplacer des animaux en large groupe sur une durée de 48 heures, en toute sécurité. C'est plus ou moins le temps qu'il faudra pour déplacer ces rhinos jusqu'à Zinav.
Zinav, c'est le parc mozambicain qui s'apprête à recevoir Billy et les autres. Pendant près de 40 ans, ce parc n'avait plus aucun rhino. Ils sont de retour depuis peu grâce à une autre opération de ce genre.
Je représente la Wildlife Mozambique Alliance et le pays en général.
Drapeau mozambicain brodé sur sa veste, le vétérinaire Agnasio Chiponde s'apprête à prendre la route.
Nous cherchons à développer notre population de rhinos. Je suis fier de faire partie de l'équipe.
Les 10 rhinocéros sont arrivés sains et saufs à Zinav. L'objectif, c'est donc de faire grandir cette population pour ensuite en envoyer dans d'autres parcs du Mozambique et ainsi repeupler le pays tout entier. Valentin Hugues, de retour de Rurulwe, RFI.
Et c'est donc avec les rhinocéros sud-africains que se referme Afrique Midi. Un grand merci à Michael Goncalves, Pierre Vallée et Laurent Chaffard aux manettes de cette édition. Merci à vous, surtout de votre fidélité. Lundi, c'est Nicolas Sûr qui revient à ce micro. Et moi, je vous dis à bientôt, Anne Grotner.
À bientôt, oui, mais moi, je suis là. Aujourd'hui, je serai aussi là lundi prochain. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Ou bien une demi-heure d'information en full day ou encore en portugais si vous nous écoutez en Afrique lusophone.
Cher Africa présente Africa Fashion Up, le rendez-vous de la mode africaine contemporaine. Découvrez la nouvelle génération de créateurs le 26 juin au Bridge, sous le pont Alexandre III à Paris, lors d'un défilé mettant en lumière les talents les plus prometteurs du continent. Un événement mode engagé entre diversité et innovation. Plus d'informations sur africafashionup.com, en partenariat avec RFI.
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, lance l'édition 2025 du concours Hip-Hop.
Alors, prenez vos smartphones et captez le ressenti de celles et ceux qui affrontent au quotidien les conséquences des changements climatiques et environnementaux.
Envoyez vite vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour participer.
Maintenant, à vous de jouer.